4, 6. La commission consultative. Tout danger étant passé, tout scrupule disparu. Les gens prudents et sages purent avouer le coup d'État. On se laissa afficher. Voici l'affiche. République française, au nom du peuple français. Le président de la République, voulant, jusqu'à la réorganisation du corps législatif et du Conseil d'État, s'entourer d'hommes qui jouissent à juste titre de l'estime et de la confiance du pays, a formé une commission consultative composée de messieurs Abatucci, ancien conseiller à la Cour de cassation du Loiret, le général Achard de la Moselle, André Ernest de la Seine, André de la Charente, Dargout, gouverneur de la Banque, ancien ministre, le général Arrigui de Padoue de la Corse, le général Debar de la Seine, le général Baraguet d'Illier du Doubs, Barbaroux, ancien procureur général de la Réunion, Baroche, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, vice-président de la Commission de la Charente inférieure, Barreau Ferdinand, ancien ministre de la Seine, Barthes, ancien ministre, premier président de la Cour des comptes, Bataille de la Haute-Vienne, Bavoux, Évariste, de Seine-et-Marne, De Beaumont, de la Somme, Bérard, de Lot-et-Garonne, Berger, préfet de la Seine, du Puy-de-Dôme, Bertrand, de Lyonne, Bidot, du Cher, Bigrel, des Côtes-du-Nord, Billot, avocat, Binot, ancien ministre, de Maine-et-Loire, Boinvilliers, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, de la Seine, Bonjean, avocat général à la Cour de cassation de la Drôme, Boulatignier, Bourbousson du Vaucluse, Brayer de la Manche, de Cambacérès, Hubert, de Cambacérès, de l'Aisne, Carlier, ancien préfet de police, de Casabianca, ancien ministre de la Corse, le général de Castellane, commandant supérieur à Lyon, de Caulaincourt, du Calvados, le vice-amiral Cécile, de la Seine inférieure, Châtenay de la Meuse, Charlemagne de l'Indre, Chassaigne-Goyon du Puy-de-Dôme, le général de Chasseloup-Laubat de la Seine inférieure, Prosper de Chasseloup-Laubat, Charente inférieure, Chais d'Est-Ange, avocat à Paris de la Marne, de Chazeille, maire de Clermont-Ferrand du Puy-de-Dôme, Colas de la Gironde, de Croussel, ancien conseiller à la Cour de cassation, ancien ministre des Basses-Pyrénées, Curial de l'Orne, de Cuverville des Côtes-du-Nord, d'Abo de la Haute-Garonne, d'Ariste des Basses-Pyrénées, d'Aviel, ancien ministre, de Lacoste, ancien commissaire général du Rhône, de Laju de la Charente inférieure, de Lavaux de l'Indre, d'Elteil du Lot, d'Anjois de la Gironde, des Jaubert de la Seine inférieure, Desmaroux de l'Allier, Drouin de Luys, ancien ministre de Seine-et-Marne, etc. Le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, le ministre de l'Intérieur de Morny. On retrouve dans cette liste le nom de Bourbousson. Il eût été fâcheux que ce nom se perdît. En même temps que cette affiche, parut la protestation de M. Darus, ainsi conçue. J'adhère aux actes faits par l'Assemblée nationale à la mairie du 10e arrondissement le 2 décembre 1851 et auxquels j'ai été empêché par la violence de participer. Darus. Quelques-uns de ces membres de la commission consultative sortaient de Mazas ou du Mont-Valérien. Ils avaient été en cellule 24 heures puis relâchés. On voit que ces législateurs gardèrent peu rancune à l'homme qui leur avait fait subir cette désagréable dégustation de la loi. Plusieurs des personnages insérés dans cette collection n'avaient d'autre renommée que le bruit que faisait leur dette, criant autour d'eux. Tel avait fait 2 fois banqueroute, mais on ajoutait cette circonstance atténuante, pas sous son nom. Tel autre, qui était d'une compagnie lettrée ou savante, passait pour vendre sa voix. Tel autre, joli, élégant, à la mode, brossé, verni, doré, brodé, entretenu par une femme, vivait dans une espèce de saleté d'âme. ces gens-là adhéraient sans trop d'hésitation à l'acte qui sauvait la société. Quelques autres, parmi ceux qui composent cette mosaïque, n'avaient aucune passion politique et ne consentirent à figurer sur cette liste qu'afin de garder leur place et leur traitement. Ils furent sous l'Empire ce qu'ils étaient avant l'Empire, des neutres, et ils continuèrent pendant les 19 années du règne à exercer leurs fonctions militaires, judiciaires ou administratives innocemment, entourés de la juste considération due aux imbéciles inoffensifs. D'autres étaient réellement des hommes politiques, de la docte école qui commence à Guizot et ne finit pas à Parieux, graves médecins de l'ordre social qui rassurent le bourgeois effaré et qui conservent les choses mortes. « Perdrai-je l'œil ?» lui dit Messer Pancras. « Non, mon ami, je le tiens dans ma main. » Il y avait, dans ce quasi-conseil d'État, bon nombre d'hommes de police, genre alors estimés, Carlier, Pietri, Maupas, etc. Peu après le 2 décembre, sous le nom de commission mixte, la police substitua la justice, rendit des arrêts, prononça des condamnations, viola judiciairement toutes les lois, sans que la magistrature régulière fît le moindre obstacle à cette magistrature incorrecte. La justice laissa faire la police, avec le regard satisfait d'un attelage relayé. Quelques-uns des hommes inscrits sur la liste de cette commission refusèrent. Léon Fauché, Goulard, Mortemart, Frédéric Granier, Marchand, Maillard, Paravet, Beugnot. Les journaux reçurent l'ordre de ne point publier ces refus. M. Beugnot mit sur sa carte le comte Beugnot qui n'est pas de la commission consultative. M. Joseph Perrier s'en alla de coin de rue en coin de rue, un crayon à la main, raturant son nom sur les affiches et disant « Je reprends mon nom où je le retrouve ». Le général Baraguet d'Illiers ne refusa pas. Brave soldat pourtant, il avait perdu un bras dans la guerre de Russie. Il a été plus tard maréchal de France. Il eût mérité de ne pas l'être par Louis Bonaparte. Il ne semblait pas qu'elle dût finir ainsi. Dans les derniers jours de novembre, le général Baraguet d'Illiers, assis dans un grand fauteuil devant la haute cheminée de la salle des conférences de l'Assemblée nationale, se chauffait. Quelqu'un, un de ses collègues, celui qui écrit ces lignes, vint s'asseoir près de lui, de l'autre côté de la cheminée. Ils ne se parlèrent pas, étant l'un de la droite, l'autre de la gauche. Mais M. Piscatori entra. Il était un peu de la droite et un peu de la gauche. Il interpella Baraguet d'Illiers. « Eh bien, général, savez-vous ce qu'on dit ?»« Quoi ? Que le président va un de ces jours nous fermer la porte au nez ?» Le général Baraguet d'Illiers répondit, et j'entendis la réponse. « Si M. Bonaparte nous ferme la porte de l'Assemblée, la France nous la rouvrira à deux battants. » Louis Bonaparte eut un moment l'idée d'intituler cette commission « Commission exécutive ». « Non, lui dit Morny, c'est leur supposé du courage. Ils voudront bien être souteneurs, ils ne voudront pas être proscripteurs. » Le général Rulhière fut destitué pour avoir blâmé l'obéissance passive de l'armée. Délivrons-nous tout de suite d'un détail. Quelques jours après le 4 décembre, Emmanuel Arago rencontra, faubourg Saint-Honoré, M. Dupin, qui remontait la rue. « Tiens, dit Arago, « est-ce que vous allez à l'Élysée ?» M. Dupin répondit, « Je ne vais jamais au B. » Il y a là. M. Dupin, on s'en souvient, fut nommé procureur général près la Cour de cassation. 4-7. L'autre liste. En regard de la liste des adhérents, il convient de placer la liste des proscrits. De cette façon, on peut voir d'un coup d'œil les deux versants du coup d'État. Décret. Article 1er. Sont expulsés du territoire français, de celui de l'Algérie et de celui des colonies, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à l'Assemblée dont les noms suivent. Edmond Valentin, Paul Racouchot, Agricole Perdiguier, Eugène Chollat, Louis Latrade, Michel Renaud, Joseph Benoît Durone, Joseph Burgard, Jean Colfavru, Joseph Faure du Rhône, Pierre-Charles Gambon, Charles Lagrange, Martin Nadeau, Barthélemy Terrier, Victor Hugo, Cassal, Signard, Viguier, Charassin, Brancette, Savoie, Joly, Combier, Boisset, Duché, Henry, Guilgaud, Hochetoul, Michaud-Boutet, Beaune, Berthelon, Schœlcher, De Flotte, Joigneau, Laboulay, Bruise, Esquiros, Madier de Mongeau, Noël Parfait, Émile Péan, Pelletier, Raspail, Théodore Bach, Bancel, Belin, Drôme, Besse, Bourza, Brive, Chavois, Clément Dulac, Dupont de Bussac, Gaston Dussoube, Guité, Lafont, Lamarck, Pierre Lefranc, Jules Leroux, Francisque Maigne, Malardier, Mathieu de la Drôme, Milotte, Rosselli Mollet, Charras, Saint-Féréol, Sommier, Testelin, Nord. Article 2. Dans le cas où, contrairement au présent décret, l'un des individus désignés en l'article 1er rentrerait sur les territoires qui lui sont interdits, il pourra être déporté par mesure de sûreté générale. Fait au Palais des Tuileries, le Conseil des ministres entendu le 9 janvier 1852. Louis Bonaparte. Le ministre de l'Intérieur, de Morny. Il y eut, en outre, une liste d'éloignés où figuraient Edgar Quinet, Victor Chauffour, le général Lédet, Pascal Duprat, Versigny, Anthony Touret, Thiers, Girardin et Rémusat. 4 représentants, Maté, Greppot, Marc Dufraisse et Richardet, furent ajoutés à la liste ou expulsés. Le représentant Miot fut réservé aux tortures des casemates d'Afrique. Ainsi, en dehors des massacres, la victoire du coup d'État se solda par ces chiffres. 88 représentants proscrits, 1 tué. Je déjeunais, habituellement à Bruxelles, dans un café appelé le Café des Mille Colonnes, et que fréquentaient les proscrits. Le 10 janvier, j'avais invité à déjeuner Michel de Bourges, et nous étions assis à la même table. Le garçon m'apporta le Moniteur français. J'y jetai un coup d'œil. « Ah, dis-je, c'est la liste de proscription. » Je la parcourus du regard et je dis à Michel de Bourges, « J'ai à vous annoncer une mauvaise nouvelle. » Michel de Bourges devint pâle. J'ajoutai, « Vous n'êtes pas sur la liste. » Son visage rayonna. Michel de Bourges, si vaillant devant la mort, était faible devant l'exil. 4-8. David d'Angers. Brutalités et férocités mêlées. Le grand statuaire David d'Angers fut arrêté chez lui rue d'Assas, numéro 16. Le commissaire de police, en entrant, lui demanda, « Avez-vous des armes chez vous ?»« Oui, dit David, pour me défendre. » Et il ajouta, « Si j'avais affaires à des gens civilisés. » « Où sont ces armes ?» reprit le commissaire. « Voyons-les. » David lui montra son atelier, plein de chefs-d'œuvre. On le mit dans un fiacre et on le conduisit au dépôt de la préfecture de police. Il y alla place pour 120 détenus. Ils étaient 700. David était, lui, 12e, dans un cachot pour deux. Pas de jour, ni d'air. Un soupirail étroit au-dessus de leur tête. Un affreux baquet dans un coin, commun à tous, couvert, mais non fermé d'un couvercle de bois. À midi, on apportait la soupe. « Une espèce d'eau puante et chaude, » me disait David. Il se tenait debout contre le mur et piétinait sur les matelas qu'on avait jetés à terre, n'ayant pas de place pour s'y coucher. À la fin, pourtant, ils se serrèrent tant les uns contre les autres qu'ils parvinrent à s'étendre tout de leur long. On leur avait jeté des couvertures. Quelques-uns dormaient. Au petit jour, les verrous grinçaient. La porte s'ouvrait. Le gardien criait « Levez-vous !» Il passait dans le couloir voisin. Le gardien enlevait les matelas, jetait quelques seaux d'eau sur le pavé, épongeait tant bien que mal, rapportait les matelas sur la dalle humide et leur disait « Rentrez !» On les verrouillait jusqu'au lendemain matin. De temps en temps, on amenait une centaine de nouveaux détenus et l'on en venait chercher une centaine d'anciens, ceux qui étaient là depuis 2 ou 3 jours. Que devenaient-ils ? La nuit, de leur cachot, les prisonniers entendaient des détonations et les passants, le matin, voyaient, nous l'avons dit, des mares de sang dans la cour de la préfecture. L'appel des sortants se faisait par ordre alphabétique. Un jour, on appela David d'Angers. David prit son paquet et se disposait à partir, quand le directeur de la geôle, qui semblait veiller sur lui, survint tout à coup et dit vivement « Restez, monsieur David, restez !» Un matin, il vit entrer dans sa cellule Bûcher, l'ancien président de l'Assemblée constituante. « Ah ! Dit David, c'est bien, vous venez visiter les prisonniers. »« Je suis prisonnier, » dit Bûcher. On voulait exiger de David qu'il partît pour l'Amérique. Il refusa. On se contenta de la Belgique. Le 19 décembre, il arriva à Bruxelles. Il vint me voir et me dit « Je suis logé au Grand Monarque, rue des Fripiers, numéro 89. » Et il ajouta, en riant, « Grand Monarque, le roi, les Fripiers, les royalistes, 89, la Révolution, le hasard a de l'esprit. » 4-9. Notre dernière réunion. Le 3, tout venait à nous. Le 5, tout se retira de nous. Ce fut comme une mer immense qui s'en va. Elle était venue, formidable. Elle s'en alla, sinistre. Sombre marée du peuple. Et qui eut cette puissance de dire à cet océan « Tu n'iras pas plus loin ?» Hélas, un pygmée. Ces retraites d'abîme sont insondables. L'abîme a peur. De quoi ? De quelque chose de plus profond que lui. Du crime. Le peuple recula. Il recula le 5. Le 6, il disparut. Il n'y eut plus rien à l'horizon qu'une sorte de vaste nuit, commençante. Cette nuit a été l'Empire. Nous nous retrouvâmes le 5, ce que nous étions le 2. Seul. Mais nous persévérâmes. Notre situation d'âme était ceci. Désespérés, oui. Découragés, non. Les mauvaises nouvelles nous arrivaient comme l'avant-veille les bonnes, coup sur coup. Aubry du Nord était à la conciergerie. Notre éloquent et cher Crémieux était à Mazas. Louis Blanc, qui, quoique banni, venait au secours de la France et nous apportait la grande puissance de son nom et de son âme, avait dû, comme Ledru Rollin, s'arrêter devant la catastrophe du 4. Il n'avait pu dépasser Tournai. Quant au général Neumayer, il n'avait pas marché sur Paris, mais il y était venu. Quoi faire ? Sa soumission. Nous n'avions plus d'asile. Le numéro 15 de la rue Richelieu était surveillé. Le numéro 11 de la rue Montabor était dénoncé. Nous errions dans Paris, nous retrouvant çà et là, et échangeant quelques mots à voix basse, ne sachant pas où nous coucherions et si nous mangerions. Et parmi ces têtes qui ignoraient quel oreiller elles auraient le soir, il y en avait au moins une qui était mise à prix. On s'abordait, et voici les choses qu'on se disait. « Qu'est devenu un tel ? » Il est arrêté. « Et un tel ? » Mort. « Et un tel ? » Disparu. Nous eûmes cependant encore une réunion. Ce fut le 6. Chez le représentant Raymond, place de la Madeleine. Nous nous y rencontrâmes, presque tous. Je pus y serrer la main d'Edgar Quinet, de Chauffour, de Clément Dulac, de Bancel, de Versigny, d'Émile Péan, et je retrouvai avec plaisir notre énergique et intègre hôte de la rue Blanche, Coppens, et notre courageux collègue, Ponce Stande, que nous avions perdu de vue dans la fumée de la bataille. Des fenêtres de la chambre, où nous délibérions, on apercevait la place de la Madeleine et les boulevards militairement envahis et couverts d'une troupe farouche et profonde, rangée en bataille, et qui semblait encore faire front à un combat possible. Charamol arriva. Il tira de son large caban deux pistolets, les posa sur la table et dit « Tout est fini. Il n'y a plus de faisable et de sage qu'un coup de tête. Je l'offre. Êtes-vous avec moi, Victor Hugo ?» « Oui, » répondis-je. Je ne savais ce qu'il allait dire, mais je savais qu'il ne dirait rien que de grand. En effet, nous sommes ici, reprit-il, environ 50 représentants du peuple, encore debout et assemblés. Nous sommes tout ce qui reste de l'Assemblée nationale, du suffrage universel, de la loi, du droit. Demain, où serons-nous ? Nous ne savons, dispersés ou morts. l'heure d'aujourd'hui est à nous. Cette heure passée, nous n'avons plus rien que l'ombre. L'occasion est unique. Profitons-en. » Il s'arrêta, nous regarda fixement de son ferme regard et reprit. « Profitons de ce hasard d'être vivants et d'être ensemble. Le groupe qui est ici, c'est toute la République. Eh bien, toute la République, offrons-la en nos personnes à l'armée. Et faisons devant la République reculer l'armée et devant le droit reculer la force. Il faut que dans cette minute suprême, un des deux tremble, la force ou le droit. Si le droit ne tremble pas, la force tremblera. Si nous ne tremblons pas, les soldats trembleront. Marchons au crime. Si la loi avance, le crime reculera. Dans tous les cas, nous aurons fait notre devoir. Vivants, nous serons des sauveurs. Morts, nous serons des héros. Voici ce que je propose. » Il se fit un profond silence. « Mettons nos écharpes et descendons tous processionnellement, deux par deux, dans la place de la Madeleine. Vous voyez bien ce colonel qui est là devant le grand perron avec son régiment en bataille. Nous irons à lui, et là, devant ses soldats, je le sommerai de se ranger au devoir et de rendre à la République son régiment. S'il refuse. » Charamol prit dans ses deux mains ses deux pistolets. « Je lui brûle la cervelle. » « Charamol, lui dis-je, je serai à côté de vous. »« Je le savais bien, me dit Charamol. » Il ajouta, « Cette explosion réveillera le peuple. » « Mais, s'écrièrent plusieurs, si elle ne le réveille pas, nous mourrons. »« Je suis avec vous, lui dis-je. » Nous nous serrâmes la main, mais les objections éclatèrent. Personne ne tremblait, mais tous examinaient. Ne serait-ce pas une folie inutile? Ne serait-ce pas jouer, sans aucune chance de succès possible, la dernière carte de la République? Quelle fortune pour Bonaparte! Écraser d'un coup tout ce qui restait de résistants et de militants, en finir une fois pour toutes. On était vaincu, soit, mais fallait-il ajouter l'anéantissement à la défaite? Aucune chance de succès possible. On ne brûle pas la cervelle à une armée. Faire ce que conseillait Charamol, ce serait s'ouvrir la tombe, rien de plus. Ce serait un grand suicide, mais ce serait un suicide. Dans de certains cas, n'être que des héros, c'est de l'égoïsme. On a tout de suite fait, on est illustre, on s'en va dans l'histoire, c'est commode. On laisse à d'autres, derrière soi, le rude labeur de la longue protestation, l'inébranlable résistance de l'exil, la vie amère et dure du vaincu, qui continue à combattre la victoire. Une certaine patience fait partie de la politique. Savoir attendre la revanche est quelquefois plus difficile que brusquer le dénouement. Il y a deux courages, la bravoure et la persévérance. Le premier est du soldat, le second est du citoyen. Une fin quelconque, même intrépide, ne suffit pas. Se tirer d'affaire par la mort, c'est trop vite fait. Ce qu'il faut, ce qui est malaisé, c'est tirer d'affaire la patrie. Non, disaient de très nobles contradicteurs à Charamol et à moi, c'est aujourd'hui que vous nous proposez. C'est la suppression de demain. Prenez garde, il y a une certaine quantité de désertion dans le suicide. Le mot « désertion » heurta douloureusement Charamol. Soit, dit-il. « Je renonce. » Cette scène fut grande, et Quinet, plus tard, dans l'exil, m'en parlait avec une émotion profonde. On se sépara, on ne se revit plus. J'étais errant dans la rue. Où coucher? Telle était la question. Je pensais que le numéro 19 de la rue Richelieu était probablement espionné comme le numéro 15. Mais la nuit était froide. Je me décidai à rentrer, à tout hasard, dans cet asile, peut-être dangereux, j'eus raison de m'y confier. J'y soupais d'un morceau de pain, et j'y passai une très bonne nuit. Le lendemain, au point du jour, en m'éveillant, je pensais au devoir qui m'attendait. Je songeais que j'allais sortir, et que probablement je ne rentrerais plus dans cette chambre. et je pris un peu du pain qui me restait, et je l'émiettai sur le bord de la fenêtre pour les oiseaux.